Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour, je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain et je reçois tous les premiers mardis du mois à l'antenne de Radio B, un ou une membre de la Confédération paysanne. Au mois de mai, j'ai discuté avec Candice de la dimension internationale des luttes paysannes en parlant notamment du mouvement des sans-terre au Brésil. En ce début de mois de juin et à l'approche d'une échéance électorale, nous allons aujourd'hui parler Union européenne avec Xavier. Bonjour Xavier.
Bonjour Marie. Oui, peut-être qu'on peut dire aussi qu'on a envie de faire participer un maximum de gens aux prochaines élections européennes parce que c'est un enjeu très important. Et donc, d'où cette émission, parler institutions, parler Union européenne, mais aussi engager les gens à participer. Peut-être simplement en intro, un petit pas de côté institutionnel, dire qu'évidemment, ces élections européennes du 9 juin prochain, elles ont une importance particulière, mais aussi que l'engagement dans la vie politique de notre pays est aussi important vis-à-vis des décisions qui seront prises au niveau européen. Parce que évidemment, on va élire des députés européens qui forment le Parlement européen, mais il faut dire que les institutions de l'Union européenne, c'est aussi la Commission européenne, évidemment, et le Conseil des ministres, les conseils des ministres ou le Conseil européen, qui lui a vraiment un rôle décisionnel. Mmh. Donc, c'est un petit peu entre ces trois organismes que se fondent les directives européennes, les politiques européennes. Mais in fine, c'est quand même le Conseil européen, le Conseil des ministres, les conseils des ministres et le Conseil des chefs d'État qui fixent le cap et qui décident vraiment au niveau européen. Donc, une importance, mais aussi une importance à se mobiliser tous les jours si on veut vraiment que ces questions européennes, elles bougent et elles bougent dans le sens que l'on veut.
Super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous resituer un peu le poids que pèse l'Union européenne sur les politiques agricoles ?
Oui, alors c'est toujours intéressant, c'est toujours bon de rappeler que quand même la politique agricole commune, c'est l'une des premières politiques mises en œuvre au niveau européen. Et donc, ça date de 1957, dans le traité de Rome. Hein, donc, dès la création de l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque, la PAC est inscrite. Et donc, les cinq objectifs de la PAC sont inscrits dans ce traité de Rome de 1957. C'est d'abord accroître la productivité de l'agriculture, hein, puisqu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et il y a une nécessité de produire plus. C'est assurer un niveau de vie équitable à la population agricole qui auparavant avait pas forcément une qualité de vie ou des revenus au niveau espéré. C'est stabiliser les marchés agricoles, garantir la sécurité des approvisionnements, encore la notion de sécurité alimentaire, et assurer des prix raisonnables aux consommateurs pour qu'ils puissent avoir accès à ces produits alimentaires. Et il faut dire quand même qu'encore aujourd'hui, 33% du budget européen est consacré à cette politique agricole commune, juste devant la politique de cohésion territoriale, on pourra y revenir. Et c'est chaque année 56 milliards d'euros qui est consacré à la PAC. Et puis sur ces 56 milliards d'euros, il y en a 9,5 qui vont pour la France, qui est le principal bénéficiaire de cette politique agricole commune. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui impacte l'agriculture, c'est pas uniquement la PAC, mais que l'Europe a développé au fil des années des directives et des règlements qui sont à destination des pays, de l'ensemble des pays européens, vis-à-vis de la protection des consommateurs et vis-à-vis de la protection de l'environnement notamment. Ces directives, c'est dans ce cadre, par exemple, qu'on a la fameuse directive OGM 2001-18 qui régit les autorisations de mise en marché des semences obtenues par transgénèse. Et puis Bayer Monsanto, on en a parlé à ce micro il n'y a pas si longtemps, Bayer Monsanto ou l'Imagrin voudraient bien éviter pour la fameuse nouvelle technique génomique. Voilà. Et puis, enfin, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que ces 20 dernières années, depuis le début, on peut dire, le cadre idéologique de l'Union européenne, c'est l'extension du libre-échange. Mmh. L'extension du libre-échange avec des pays tiers, hein, bien sûr, on y reviendra et en particulier on prendra le focus du CETA là-dessus. Mais l'Union européenne a conclu des accords de libre-échange avec tout un tas de pays ou d'ensembles de pays. On pense au Mercosur qui est en cours de négociation, mais qui en fait nous pend au nez quand même. On pense dernièrement à un pays plus petit, mais qui a quand même son importance, le Kenya, hein, puisqu'on a un accord de libre-échange qui a eu lieu. Et puis que très concrètement, par exemple, la production d'haricots verts français, mais européens en général, a vraiment maille à partir avec cet accord de libre-échange et ben, voilà, avec des difficultés sans doute pour les producteurs locaux. Mais non seulement avec les pays tiers, mais également au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, il faut rappeler au départ, la communauté européenne, c'était 6 pays, puis après, ça a été 9 pays, puis après, ça a été 12 pays, et aujourd'hui, on en est rendu à 27. Donc, 27 pays, on voit bien, avec des différences de niveau de vie, des traitements sociaux différents, une attention portée à l'environnement différent. Donc, même s'il y a les fonds de cohérence, de cohésion territoriale qui sont là pour justement aider le développement des pays qui sont dits en retard ou des zones à l'intérieur des pays qui sont dits en retard, on voit bien que c'est pas parfait et que ça a conduit notamment, il faut quand même en avoir conscience, par exemple en France, à carrément, on va pas dire la destruction pure et simple, mais en tout cas une très forte diminution d'importance de l'agriculture du Sud, et notamment de l'agriculture arboricole et maraîchère, et ce qui fait qu'on n'est plus que autonome en termes de légumes à 50% aujourd'hui, parce qu'en fait, l'essentiel de nos légumes sont produits dans le sud de l'Espagne. Oui. Ça a quand même, ça joue beaucoup sur les agricultures partout au sein de l'Union européenne, ce marché unique en fait, et cette concurrence entre les paysans, entre les travailleurs aussi, d'un côté à l'autre de l'Union européenne.
Ça marche. Donc globalement, tu le disais, les politiques européennes ont un impact sur toutes les fermes. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns, donc à travers la PAC? Est-ce que toutes les fermes sont concernées par cet impact?
Oui, toutes ces fermes sont concernées, évidemment, parce que bon, la PAC, c'est une évidence, hein, 9,5 milliards d'euros, ça a été, certaines années, le revenu de la ferme France. Donc, d'accord, c'est pour vous situer ça, hein, c'est que pour certaines fermes, les aides sont supérieures aux revenus agricoles des paysans, hein, c'est clair. Même pour certaines, c'est équivalent à leur excédent brut d'exploitation. Donc, ça permet non seulement aux agriculteurs de se rémunérer, mais de payer les investissements qui sont nécessaires à leur activité. Donc c'est énorme, c'est énorme, notamment pour les producteurs de lait, de viande et de céréales. Hein, voilà, c'est un enjeu économique immédiat. Hein. Bon, illustration sur ma ferme, les aides PAC, c'est autour de 20 000 euros. Mmh. Et c'est mon revenu agricole. J'aimerais bien dire que j'aimerais bien gagner plus, mais j'aimerais bien dire que même toutes les années, c'est mon revenu agricole, mais ça n'est même pas le cas, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Donc, ça veut vraiment dire que ça a vraiment un impact fort. Mais au-delà de la PAC, on l'a dit pour les directives, hein, la question de l'environnement, les OGM, etc. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir vraiment insisté sur un marché libre d'avoir laissé de côté tout ce qui est prix garanti, organisation de marché, depuis 92 finalement, donc depuis ces 30 dernières années, hein, puisque les quotas laitiers, ça dure un peu plus longtemps, mais de toute façon, les organisations de marché, elles ont été démantelées petit à petit, et donc il n'y a plus vraiment d'emprise publique sur les marchés, donc ce qui fait que les prix agricoles varient de façon très importante d'une année à l'autre, en fonction des récoltes, en fonction des importations, en fonction de la qualité des récoltes, ce qui fait que le moindre petit producteur dans son coin, petit maraîcher, même si il ne perçoit aucune aide PAC, ce qui est peut-être un scandale, on peut le dire, n'empêche qu'il est aux prises à des marchés qui sont libérés et que quand il produit du concombre, son concombre, il est en concurrence avec le concombre qui est produit dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie, parce qu'on n'a rien planifié, rien organisé, rien garanti en termes de prix. D'accord. Et ça peut lui poser des problèmes énormes, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce qui se passe, tout à fait.
Tu parlais du CETA tout à l'heure, donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est possiblement en cours de ratification. Jeudi dernier, le 30 mai, la CONF s'est mobilisée devant l'Assemblée nationale à Paris pour demander la non-ratification du CETA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enjeu qu'il y a ?
Oui, donc le CETA, il fait partie d'un ensemble d'abord d'accords de libre-échange et vraiment qui est lié encore une fois à cette idéologie libre-échangiste, hein, d'approfondissement du libre-échange en se disant que chaque pays, en fonction de ses avantages comparatifs, est amené à prendre part à la division internationale du travail. Mmh. Hein, c'est exactement ça l'idéologie qu'il y a derrière. Et donc du coup, aux producteurs français de produire tel produit et puis aux producteurs canadiens d'en produire un autre parce que ces avantages comparatifs sont meilleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, il y a plus de foncier ou il y a plus d'eau disponible ou il y a plus... Voilà. En fait, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça et c'est vraiment un souci. Donc, contrairement à ce que prétend le gouvernement pour expliquer notamment le report du vote du CETA, du vote à l'Assemblée nationale, puisque en fait, il y a eu un vote au Sénat qui a rejeté le CETA parce qu'on, à la faveur de la crise agricole, il a paru intéressant que le Parlement national se saisisse de cette question. Donc, il y a eu un premier vote au Sénat et il devrait avoir un deuxième vote à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, il prétend que l'accord de libre-échange CETA serait favorable à l'agriculture française. En fait, déjà, il n'y a pas de clause miroir. Mm-hmm. Hein, ça, il faut le dire. C'est la clause miroir, on va peut-être définir un peu ce que c'est, mais c'est de dire que, par exemple, un produit qui est produit avec une certaine condition en France, il ne pourrait pas être importé avec des conditions différentes d'un autre pays. Okay. Par exemple, si on produit... on décide de ne pas utiliser une substance pesticide sur la cerise, parce que c'est le bon exemple. Hein, il y a eu une clause miroir sur la cerise. Enfin, on a imposé une clause de sauvegarde sur la cerise. On ne peut pas importer des cerises qui utiliseraient ce produit-là venant d'un autre pays. Mais en fait, il n'y a pas d'accord de miroir, il n'y a pas de clause miroir dans le CETA. Donc, ça va encore accentuer la course au volume, sans retour concret aux producteurs et aux productrices. Alors, on a trois exemples vraiment précis. Hein. Par exemple, le colza. Le colza canadien, c'est un colza OGM. Et il sert en France, notamment aux usines d'agrocarburants, c'est important, de multinationales comme Avril. Mm-hmm. Bonjour, monsieur Rousseau. Et les producteurs français de colza, ils sont là face à une concurrence complètement déloyale, mm-hmm. puisque Avril, qui produit ses agrocarburants, va aller acheter du colza canadien, produit avec des OGM. Mm. Et vous savez qu'il y a eu vraiment un problème sur ces OGM et notamment sur ce colza OGM au CETA, on pourra en venir une autre fois, mais c'est vraiment emblématique. Mais d'autres choses, par exemple la lentille. C'est intéressant de noter, hein, parce que c'est à la mode de revenir à la consommation de protéagineux, de légumineuses, chez nous. Et il faut savoir qu'une lentille sur cinq provient du Canada, hein, chez nous. Hein, donc voilà. Par exemple, il est possible d'appliquer du glyphosate juste avant la récolte sur cette lentille
au Canada.
Okay. Voilà, hein, parce que y a pas de règles comme chez nous. Où, vous savez. Un mois avant la récolte, chez nous, en gros, on n'a plus le droit de mettre de produits phytosanitaires sur les récoltes pour pas que ce produit se retrouve dans l'assiette du consommateur, ouais. Tout simplement. C'est une question de bon sens. Et c'est pas le cas au Canada. Franchement, l'essor des échanges va finalement empêcher les agriculteurs français de développer leur propre filière de légumineuses. Voilà, tout simplement.
Ça marche. Donc, si la conf s'est dénoncé les projets qui donnent la priorité aux intérêts des marchés, elle est aussi et surtout force de proposition. Quelles sont aujourd'hui les principales revendications et propositions de la conf vis-à-vis de l'Union européenne ?
On peut revenir vraiment aux fondamentaux et ce qui a été mis beaucoup en avant sur les actions ce début d'année. Et notamment la régulation des marchés pour des prix garantis, des prix minimums d'entrée. Donc ça, c'est la première chose. Et donc revenir à de la régulation des marchés, des quotas, etc. Et pour valoriser les produits agricoles. La deuxième chose, c'est relocaliser l'alimentation. Mmh. Donc éviter de se répandre en accord de libre-échange. Et ça serait mieux que les lentilles elles soient 100% produites en France, consommées en France, elles soient 100% produites chez nous. Enfin, c'est un exemple qu'on a déjà pris, mais on peut y revenir. Et puis, au niveau de la PAC, on a des choses très précises depuis toujours. Le plafonnement des aides à l'actif, c'est un passage obligé si on veut éviter l'agrandissement des fermes et le toujours plus vers la diminution du nombre d'exploitations, hein, puisqu'on est plus que 450 000 et puis que certains nous voient 200 000 dans pas longtemps. Enfin voilà, et que 50% des fermes vont être à renouveler dans les 10 ans.
Le plafonnement des aides à l'actif, c'est donc la répartition des aides PAC en fonction du nombre de salariés et ou d'associés sur la ferme et non en fonction du nombre d'hectares, c'est ça?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, les aides PAC, elles sont toutes liées à l'hectare.
Okay.
Plus on a d'hectares, plus on a d'aides PAC. Mmh. Voilà. Et c'est ça qu'il faut casser absolument. Voilà, c'est l'essentiel des propositions qui sont portées pour changer la politique européenne. Et encore une fois, ces revendications, elles sont portées tout au long de l'année et elles visent également à convaincre les gouvernements, parce que même dans l'application de la PAC, il y a un volet national très fort, puisqu'on a un plan national, et donc c'est ce plan qu'il faut changer. Et il y a finalement une adaptabilité de la PAC d'un État à l'autre, et donc du coup, voilà, c'est à la fois convaincre les eurodéputés et envoyer des eurodéputés qui sont favorables à ce changement-là au niveau européen, et puis c'est aussi militer au jour le jour au niveau national pour que l'État français prennent les bonnes décisions.
Super. Eh bien, merci Xavier de ta présence. Merci à vous, auditeurs et auditrices de Radio B, pour votre écoute. On se donne rendez-vous dès le mois de juin pour une nouvelle chronique. Je vous donne également déjà rendez-vous pour le moment festif de la rentrée, la fête de l'agriculture paysanne. Vous pouvez noter la date du 28 septembre, un samedi, dans vos agendas. L'ADR, le Comité d'Action Juridique et la Confédération Paysanne de l'Ain vous accueilleront pour cette fête annuelle à partir de 15h, assise. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération Paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous!